Chapitre 55. 6 septembre 1997. 2 milliards de personnes sont devant leur poste de télévision, à suivre le cortège des yeux, hébétés. Les jeunes princes, sous un soleil de plomb, pliés par la douleur comme deux roseaux sous des grappes d'oiseaux. Le monde ne supporte pas de voir souffrir ces têtes couronnées. Encore moins 2 enfants perdant leur mère. En plus, ce même monde vient d'apprendre la disparition de Mère Teresa. On les imagine toutes les deux devant Saint-Pierre, la princesse des cœurs et celle des pauvres, main dans la main. La voix douce en commun. Perd-on sa voix lorsque l'on meurt? Que cherche donc à raconter cette fin d'été? Pense Adrien. Ailleurs, un fils enterre sa mère, sans l'océan de fleurs, ni marée humaine. Une femme qui a fait de son mieux, les mains badigeonnées de feutre, de la pâte à modeler sous les ongles. Elle a passé sa vie à torcher les enfants des autres. Accueillir les parents le matin, leur rendre le soir. Des bras pour la journée, une parenthèse. Son quotidien était de les faire jouer, rire, danser en ronde, manger, dormir, de les cajoler, d'essuyer leurs morves, de trier les doudous, leur lire une histoire, d'occuper leurs heures avant qu'ils entrent en maternelle. 20 ans de jardin d'enfants et de garderie municipale. Des têtes blondes, brunes, têtues, dociles. Elle a géré les premières dents et les premiers pas, le dos courbé pour les rattraper quand ils allaient chuter. Il est 11 heures lorsque Nina, Adrien et Louise pénètrent dans le cimetière de la Comelle. Louise à gauche, Nina au milieu, Adrien à droite. C'est la première fois que Louise remplace son frère, retenu à l'école de police qu'il a intégré. Louise, Nina et Marie-Laure ont aidé Adrien à organiser les funérailles. Comme si Marie-Laure était préposée à la mort des autres, celle des parents des copains de son fils. Nina et Adrien sont frappés par le chagrin à 3 ans d'intervalle. Bien sûr, Sylvain Bobin a insisté pour tout régler. Lui aussi est présent ce matin-là. Il n'aura pas fallu plus de 2 mois à Joséphine pour être emportée. Un matin, son médecin lui a fait faire une prise de sang parce qu'elle se sentait un peu plus fatiguée que d'habitude. Le lendemain, elle apprenait qu'elle avait un cancer généralisé. On a tenté une chimio, mais Joséphine est partie avant que ses cheveux tombent. C'est Nina qui s'est occupée d'elle, l'a accompagnée à l'hôpital d'Autun jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, là-bas, entourée d'Adrien, Nina et Marie-Laure. Jusqu'à la fin, Adrien est venu chaque week-end, trop accaparé par son emploi du temps en cagne. La vérité est qu'Adrien n'a pas passé son concours. La vérité est qu'il a menti à tout le monde. Depuis la sortie de Blanc d'Espagne, en mars 1997, le roman s'est déjà écoulé à plus de 500 000 exemplaires en France et a été acheté dans 20 pays. Un véritable phénomène, le sujet fascine. Et le fait que son auteur souhaite rester anonyme n'y est pas étranger. Adrien a choisi Sacha Laurent comme pseudonyme. Femme ou homme, on a tout supposé, balancé des noms célèbres. On a même imaginé que l'écrivain était décédé depuis longtemps, un manuscrit exhumé. La valoir de son 2e roman est si important qu'Adrien a quitté l'appartement de Thérèse à Vincennes pour s'installer dans le 6e arrondissement de Paris, dans un confortable 60 mètres carrés sur cour, juste à côté de sa maison d'édition. Une vie clandestine, de contrebande. Il raconte qu'il est étudiant pour ne pas avouer à ses proches qu'il est l'auteur de Blanc d'Espagne. Il fait aussi croire à son éditeur qu'il travaille sur son 2e roman, alors qu'il n'a pas la moindre idée. Il est sec. Son quotidien est une page blanche. Blanc d'Espagne a été un exutoire, et derrière le mensonge, encore le mensonge. C'est définitivement sa 2e peau. Sans s'en apercevoir, comme le goutte à goutte auquel sa mère était reliée les dernières semaines de sa vie, Adrien a changé, il a pris de l'assurance et commence à se regarder dans les vitrines des magasins pour arranger ses cheveux. Un ancien moche, devenu beau grâce à la gloire. Une gloire dont il ne tire aucun bénéfice, sauf sur son compte en banque. Il sort chaque soir avec son éditeur Fabien Désérable, qui le présente comme un de ses jeunes prodiges sans rien ajouter. Au curieux de savoir ce qu'il a écrit, il se contente de répondre « Nous n'en sommes qu'au stade des corrections, un peu de patience. » Adrien et Désérable assistent à tous les spectacles, toujours au premier rang. Adrien finit ses nuits dans des boîtes branchées. Il sirote d'onéreux cocktails à la paille en observant la faune danser. Pour la première fois, il a conscience de plaire. Sans doute est-ce lié à son attitude. Le môme rougissant est bel et bien mort et enterré. Le succès lui a planté un tuteur dans le dos. Dans les nuits parisiennes, il se place toujours de manière à surplomber la piste pour se rincer l'œil. Il n'imagine pas un seul instant qu'il ait pu vivre en Bourgogne, s'invente un passé où il aurait grandi du côté de Saint-Germain-des-Prés, tantôt fils d'artiste, tantôt fils de personne. Né à Buenos Aires ou New York, il se crée une vie au gré de ses rencontres. Il n'emprunte plus les transports en commun, quitte rarement son quartier, et quand il doit se déplacer, elle un taxi. Il ne prend pas de nouvelles de Thérèse, sa logeuse, comme il l'appelle à présent. Après tout, elle l'a hébergé pour le fric. Il ne voit plus Étienne, qui a intégré son école de police de Canécluse, en Seine-et-Marne. Ce n'est pas Joséphine qui a informé Adrien de sa maladie, mais Nina. Joséphine ne voulait pas l'inquiéter. S'est dit qu'elle se débarrasserait très vite de ce cancer, qu'elle avouerait tout à son fils lorsqu'elle serait guérie. Un soir, Nina a téléphoné à Adrien pour lui dire qu'il devait venir. Sa mère allait mal. Quand elle a prononcé le mot cancer, il s'est glacé. Le lendemain, il a pris un TGV pour les rejoindre directement à l'hôpital. En poussant la porte de la chambre, il a été foudroyé. Sa mère avait maigri et portait déjà le masque de la mort sur le visage. Il l'a vécu comme une punition. Il avait écrit Blanc d'Espagne sans rien dire et la vie se vengeait. Il avait tout avoué sur le papier mais en silence. Nina était transformée elle aussi, le visage bouffi, et son corps était celui d'une autre. Elle avait pris 10 kilos, peut-être plus. Adrien a pensé qu'elle était enceinte. Il a eu envie de fuir cette ancienne vie, de prendre ses jambes à son cou pour retourner dans ses belles existences inventées. Nina est partie à la machine à café, et quand il s'est retrouvé seul avec Joséphine, il a eu envie de tout lui avouer. « Maman, c'est moi qui ai écrit Blanc d'Espagne. Pardonne-moi. » Mais il a manqué de courage. Elle est morte sans savoir. À part quelques anciens camarades de lycée et collègues de travail, il n'y avait pas grand monde à l'église. Les gens sont restés chez eux pour assister aux funérailles de Lady Diana à la télé. Dans le cimetière, seule une poignée de personnes sont là pour la mise en terre. Louise et Nina tiennent Adrien par la main, raide comme la justice. Sylvain Bobin est derrière eux. Adrien pourrait sentir le souffle de son géniteur dans sa nuque s'il reculait d'un centimètre. Adrien a demandé aux deux filles de l'emmener loin après l'enterrement. Pas de peau chez l'un ou chez l'autre, juste rester seule avec elles deux. Nina a fait la grimace. Difficile de ne pas rentrer chez elle. Emmanuel déteste la savoir loin de lui, mais, en pareille circonstance, impossible d'abandonner Adrien. Elle a menti, fait croire à Emmanuel que tout le monde se réunissait en mémoire de Joséphine après la cérémonie.
Où ? Jusqu'à quelle heure ? Tu veux que je t'accompagne ?
Non, ça ira. Elle a même osé un « Je préfère être seule, déjà qu'Étienne ne sera pas là. » Après la mort de Joséphine, Louise a téléphoné à son frère. On l'enterre samedi.
Il y a des enterrements le samedi ?
Sont les seuls mots qu'il a prononcés. Faut croire.
Je peux pas venir. Mon commissaire a refusé ma permission. Je suis coincée.
Appelle Adrien au moins.
Ok.
Étienne a raccroché. S'est rappelé Joséphine. Elle était cool. Jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours à se marrer. Une clope au bec. Sa main dans leurs cheveux. Que de beaux souvenirs dans son petit appart. Il a pensé au chagrin d'Adrien, à la solitude de Nina, sa jeunesse avortée. Nina et lui étaient morts le même jour, et tout le monde l'ignorait. Il a pensé qu'il donnerait tout pour retourner vers son adolescence, cette insouciance qui le caractérisait. Le lendemain matin, on était dimanche. Il a acheté un billet Gare de Lyon, pris un TGV. Quand il est arrivé sur le quai, il a aperçu Adrien et Louise, assis côte à côte devant un distributeur de boissons à l'intérieur de l'enceinte. Ils avaient l'air perdus. Lui repartait sans doute à Paris, elle à Lyon. Étienne a rasé les murs pour ne pas être repéré, comme le jour de Noël où il les avait vus sortir de l'hôtel des voyageurs. Quel drôle de couple. On dirait qu'ils sont maqués depuis 100 ans. Des petits vieux dans un corps de jeunes. Pourquoi ne vivaient-ils pas ensemble? Pourquoi se cachaient-ils encore? Étienne a pris un bus pour la Comelle et monté à pied au cimetière sous un soleil de plomb, a cherché, puis trouvé la tombe de Joséphine Simoni parmi les neuves. Il a réalisé qu'il découvrait son nom de famille. Pour lui, elle avait toujours été Jo, ou la mère d'Adrien. Il s'est assis juste à côté d'elle, sur un banc, et s'est mis à lui parler. Il a commencé par la remercier pour les chocolats et les tartines. Puis il a bifurqué sur la soirée du 17 août 1994. Il n'en avait jamais parlé à personne. De là où était Joséphine, elle ne pourrait rien raconter, juste l'écouter. Besoin de soulager sa conscience. C'était le soir de l'enterrement de Pierre Beau. Étienne, la tête à l'envers, était arrivé en avance au lac de la Forêt. Il avait apporté des gâteaux salés et une bonne bouteille de whisky qu'il avait piqué dans le bar de ses parents. Il appréhendait ses retrouvailles avec Clotilde, qu'il n'avait pas vue depuis plus d'un mois. Juste croisé le matin à l'enterrement et l'après-midi chez lui. Mais vite fait, puisqu'il n'avait pas lâché la main de Nina. Des retrouvailles qui allaient finir en séparation. Son petit discours était prêt. « Je t'aime, mais je pars à Paris dans 15 jours. Nous nous retrouverons peut-être, sûrement, dans quelques années. Plus tard, on finira par se marier, tu verras. Mais là, maintenant, faisons un break. Sinon, nous serons trop malheureux. » Le mot « break » était moins violent, plus lâche, mais moins définitif qu'un « c'est fini ». Il souhaitait éviter les cris et les larmes. Les drames, très peu pour lui. Il avait déjà bien entamé la bouteille et s'était assoupi, cassé par la fatigue des derniers jours et l'alcool, lorsque Clotilde est arrivée. Il a sursauté en la découvrant, apprêtée, maquillée. Elle s'est jetée sur lui. Étienne s'est laissé embrasser, puis elle l'a dévisagée. « Tu n'as pas reçu ma lettre ?» lui a-t-elle demandé. « Quelle lettre ?» Elle a eu un drôle de sourire avant de hausser les épaules. Il a remarqué qu'elle avait les traits tirés, comme si l'été l'avait fait vieillir. Elle a voulu se baigner, là, tout de suite. « Fait trop chaud. Et puis l'histoire du grand-père de Nina, cet enterrement, ça m'a déprimée, la pauvre. » Elle n'en pensait pas un mot. Mauvaise comédienne. Elle était jalouse de Nina, de la proximité des trois. Étienne a entendu le contraire. « Rien à foutre de Nina Beau. » Il l'a détestée, a failli se barrer. Clotilde l'a senti. Elle a radicalement changé de comportement. On se trouve un coin tranquille? Comme ça, on pourra se déshabiller complètement? A-t-elle dit d'une voix lascive en lui caressant l'entrejambe. La chair est faible, surtout celle d'Étienne. Il s'est dit qu'il coucherait bien une dernière fois. Après tout, c'est pour ça qu'il sortait avec elle depuis si longtemps. Il a répondu OK. Ils sont montés sur la moto, se sont enfoncés dans la forêt, ont trouvé un coin ombragé, loin des regards, sans berge. Les autres baigneurs étaient à l'opposé, sur des rades aménagées grossièrement avec du sable de carrière où des ados faisaient griller des saucisses. Étienne et Clotilde sauteraient directement dans le lac depuis un talus d'herbe haute brûlé par l'été. Il s'est déshabillé, a plongé, l'eau était boueuse. Il l'a regardée se dévêtir, elle lui tournait le dos. Elle portait comme un bandage, ces trucs de vieux qui maintiennent les lombaires. Elle a juste fait pivoter sa tête dans sa direction et lui a souri, un sourire étrange. Il s'est à nouveau senti mal à l'aise, avec l'envie de déguerpir, a débandé instantanément. Plus envie de la baiser. Quel con d'être venu là, mais quel con! Il a nagé, fuyant le bord. Déjà la boue avait disparu. L'eau était plus claire, fraîche. Elle l'a fait dessouler. Quand il s'est retourné, Clotilde était dans l'eau et nageait vers lui en riant trop fort. Arrivée à sa hauteur, elle a soufflé. « J'ai une surprise. » Puis elle a disparu. Étienne a pensé qu'elle allait lui faire un truc genre fellation sous-marine. Mais elle est remontée à la surface et s'est allongée sur le dos pour faire la planche. Un ventre rond, comme une excroissance. Un cauchemar. Il n'avait jamais vu de ventre de femme enceinte. Sous des vêtements, oui, mais jamais nu. Le nombril un peu bombé. Il a refait toute l'histoire à l'envers en un dixième de seconde. Il aurait dû s'en douter, le sentir. Elle n'avait pas avorté. Pourtant, il l'avait accompagnée à Autun, attendue dans un café en face de l'hôpital. Elle était ressortie en milieu d'après-midi. « Ça s'est bien passé ?» lui avait-il demandé, un peu honteux. « Oui, c'est mieux comme ça », avait-elle répondu. À présent, impossible de sortir un son. Et elle, sur le dos, le regardant en souriant, presque fière de sa bonne ou mauvaise blague. il a fermé les yeux, mis sa tête sous l'eau et nagé pour regagner la rive et s'enfuir. Il aurait voulu annuler ce moment, comme sur son ordinateur avec la flèche supprimée. Elle l'a suivi en nageant le crawl, une nageuse d'exception. Il avait oublié ce détail. Il a senti ses mains attraper ses chevilles. Il s'est débattu et est sorti précipitamment de l'eau. Il a vu son bandage jeté à terre à côté de ses vêtements. Une folle, a-t-il pensé. Elle a eu du mal à sortir, a demandé à Étienne de l'aider. Il n'a pas bougé, l'a regardé froidement. Elle s'est accrochée à une racine d'arbre et est remontée tant bien que mal. Il a eu envie de lui appuyer sur la tête pour qu'elle disparaisse au fond du lac. Une fois hors de l'eau, elle s'est mise à beugler. « T'inquiète, je ne te demanderai rien, personne ne sait, même pas mes parents !» Elle a sorti des liasses d'argent de son sac à main, plusieurs milliers de francs. « Regarde, j'ai plein de pognon, je vais partir !» « Partir où ?»« Je sais pas encore. Ce soir, ce rendez-vous tous les deux, c'était pour me larguer, non ?» Il n'a pas répondu. Elle s'est mise à pleurer en poussant de drôles de cris. Elle a de nouveau fait allusion à une lettre qu'elle lui aurait envoyée. La haine et la pitié. Il a repris la bouteille de whisky dans son sac à dos et a bu plusieurs rasades. L'alcool l'avait toujours apaisé. Il s'est calmé. Il a eu un vertige, s'est assis dans l'herbe. « Putain, mais j'ai même pas 18 ans, pourquoi t'as fait ça ?»« J'ai pas eu le courage de me faire avorter. Je te crois pas, Clotilde. Dis que t'as voulu me coincer, mais me fais pas avaler tes conneries de courage. » Elle s'est rhabillée sans rien dire, en reniflant de temps en temps, sans se bander le ventre. Il a roulé un pétard, continué à boire. Elle s'est assise près de lui. « Quand nos parents vont l'apprendre, ils vont péter les plombs, les tiens comme les miens. Je vais partir avant qu'ils sachent, » a-t-elle répondu. « Mais où veux-tu partir, nom de Dieu ?» Elle a souri. « Je me suis toujours débrouillée. Je ne veux pas de gosse. J'en ai jamais voulu, j'en voudrais jamais. Tu m'as volé, c'est dégueulasse. Et toi, t'es pas dégueulasse de vouloir me quitter ?» Il a fermé les yeux. Un cauchemar réveillé. Ce matin, l'enterrement de Pierre, et maintenant, l'autre, qui se ramenait avec son gros bide. Il en aurait chialé, mais jamais devant une fille. Sa tête s'est mise à tourner. Il s'est allongé, les yeux toujours fermés. Dans son dos, de l'herbe sèche et piquante. De temps en temps, il chassait une fourmi sur son bras ou son cou. Clotilde a posé une main sur son ventre. Une main agile et chaude. Il l'a repoussée une fois, deux fois. La dixième, il s'est laissé faire. À quoi bon lutter? Et lutter contre quoi? Elle l'avait piégé. Autant en tirer un plaisir relatif. Elle l'a caressé. Avait toujours su s'y prendre avec lui. Il a joui, s'est endormi, bercé par la chaleur et le whisky. La nuit commençait à tomber quand il a été réveillé par un bruit sourd. Il a appelé Clotilde plusieurs fois. Aucune réponse. Ses vêtements et son bandage avaient disparu. Plus aucune trace de son passage. Comme s'il avait fait un mauvais rêve. Il s'est levé. Une sensation désagréable. Trop d'alcool. Du mal à tenir sur ses jambes. Il puait la vase. À 200 mètres, peut-être 3, il a cru voir quelque chose s'enfoncer dans l'eau. Étienne a fini par réaliser que ce n'était pas le fruit de son imagination. Une voiture était en train de couler sous ses yeux, avalée par le lac. Il n'a pas cherché à plonger, à savoir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur pour éventuellement le sauver. Il s'est dit que ça devait être une histoire de trafic, d'auto volé. Ici, il y avait toujours eu des mecs chelous, petits dealers et fumeurs de shit. Ce soir-là, Étienne n'a fait aucun rapprochement entre Clotilde et cet amas de tôle. Il est monté sur sa moto sans se retourner et a roulé jusqu'à la maison de Nina. Après tout, rien à foutre. Ce gosse, c'était son problème à elle, pas le sien. Le lendemain, il a appris la disparition de Clotilde. Un témoin l'avait formellement identifié à la gare de la Comelle autour de 22h. Les horaires collaient. Alors Étienne avait menti. Clotilde n'était pas venue à leur rendez-vous. Plus simple. En disant qu'il ne l'avait pas vue, il se persuadait que rien ne s'était passé. Il allait partir à Paris et personne ne s'y opposerait. Il deviendrait flic, appliquerait la loi pour empêcher des Clotildes ou autres voleuses de piéger les hommes.